J'ai pensé vous parler du mont des Oliviers en tant que montagne des choses dernières. Et je vous invite à faire trois lectures maintenant. Tout d'abord, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 15 et au verset 10. 2 Samuel 15 et verset 10. David prenait la montée des oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvraient aussi la tête, et ils montaient en pleurant. On vint rapporter à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, fais que les conseils d'Achitophel soient dénués de sens. Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, voici qu'arriva à sa rencontre Hushaï l'Archien, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. Nous faisons une deuxième lecture dans le livre du prophète Zacharie, et au chapitre 14, nous lisons à partir du verset 1er. Zacharie, chapitre 14 et verset 1er. Voici qu'un jour arrive pour l'Éternel. Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je regrouperai toutes les nations à Jérusalem pour le combat. La ville sera prise, les maisons seront mises à sac, les femmes violées. La moitié de la ville partira en déportation, mais le restant du peuple ne sera pas retranché de la ville. L'Éternel sortira, il combattra ces nations comme au jour où il combat, au jour de la bataille. Ses pieds se placeront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu vers l'est et vers l'ouest en une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatsal. Et un dernier texte dans le livre des Actes des Apôtres. Nous lisons au chapitre 1er. Et nous lisons ceci au verset 9. Donc Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé et pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et leur dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Il m'est souvent arrivé de guider des frères et sœurs de Suisse dans une visite en Israël. Et j'ai souvent eu cette réaction alors que je leur disais « Nous allons bientôt entrer dans les montagnes de Juda. » Et lorsque nous nous trouvions dans ces montagnes, je voyais la déception s'installer sur le visage de nos amis suisses. Ils me disaient « Ça, des montagnes ?» Ce sont des collinettes. Ils s'attendaient à voir des montagnes aussi hautes que le Mont Blanc. Il est vrai que la Bible nous dit « des montagnes entourent Jérusalem ». Alors, et c'est vrai, ce sont pour les Suisses de petites montagnes. La plus haute, celle dont nous parlons aujourd'hui, culmine à peu près à 800 mètres. C'est justement notre montagne des Oliviers. Mais cette montagne des Oliviers, pour peu importante qu'elle soit, sur le plan géographique, sur le plan de l'altitude, est néanmoins une montagne extrêmement importante. Ainsi que nous l'avons dit, c'est la montagne des choses dernières. Dans la Bible, cette montagne porte plusieurs noms. Le premier de ces noms, c'est la montagne de l'Orient. En effet, lorsque l'on est à Jérusalem et que l'on regarde vers l'Est, Il y a cette barrière que représente le mont des Oliviers. Et du temps où le temple existait, les portes du temple étaient tournées vers l'est, vers cette montagne des Oliviers, vers cette montagne de l'Orient. Et lorsque le soleil se levait, les premiers rayons atteignaient le temple au moment où le soleil dépassait le sommet du mont des Oliviers, et les premiers rayons du soleil levant venaient se refléter dans les portes d'or, qui étaient les portes du sanctuaire. Et lorsque ce soleil levant se reflétait dans ces portes d'or, les prêtres ouvraient les portes et offraient les sacrifices du matin. Lorsque le soleil se levait sur le mont des Oliviers, on savait que le temps était venu d'offrir le sacrifice du matin. Mais le mont des Oliviers avait été aussi une montagne qui avait une signification négative. Et c'est justement ce qui fait le caractère paradoxal de cette montagne. Elle porte aussi un autre nom dans la Bible, Har HaMashrit, la montagne de la destruction. Nous lisons dans l'Écriture, et notamment dans le premier livre des Rois, que c'est sur cette montagne que Salomon a établi des sanctuaires idolâtres pour ses femmes étrangères. Nous savons que le règne de Salomon, qui avait commencé fort bien, a fort mal fini. Car Salomon, nous a-t-il dit, aima beaucoup les femmes étrangères qui l'entraînèrent au culte de leur Dieu. Et ces sanctuaires créés par le roi pour ses femmes étaient situés justement sur le mont des Oliviers, qui était devenu le symbole de l'idolâtrie d'Israël. Et ces sanctuaires idolâtres subsistèrent sur la montagne des Oliviers jusqu'à ce que le roi Josias, le pieux roi Josias, ne vienne détruire ces sanctuaires. Et à partir de ce moment-là, on a donné à cette montagne le nom de Har HaMashrit, la montagne de la destruction, parce que le roi Josias avait détruit ses sanctuaires idolâtres. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai oublié aussi de mentionner quelque chose de très important, on employait aussi le mot Har HaMashrit, montagne de la destruction, car c'était au sommet de cette montagne que l'on sacrifiait la vache rousse. Cette vache qui devait être entièrement consumée par le feu, ses cendres étaient mélangées à l'eau, et les cendres de la vache rousse servaient à la purification de tout ce qui n'était pas susceptible de passer par le feu. La vache était entièrement détruite par le feu, d'où le nom de Har HaMashrit, montagne de la destruction, car c'était justement au sommet de la montagne des Oliviers que l'on détruisait cette vache dont les cendres avaient justement la vertu de purifier l'idolâtrie à laquelle le peuple avait été susceptible de se livrer. Bon, je passe très rapidement. Il faudrait parler longuement sur la vache rousse parce que il y a toutes sortes de mystères dans cette question très importante, mais j'ai pas le temps ce matin, c'est pas mon but. Maintenant, le mont des Oliviers portait aussi un autre nom, qui est proche, qui est dérivé du mot Mashrit en hébreu. C'est le mot Mshira. C'est presque pareil, mais le sens est totalement différent. Mshira, ça signifie l'onction. La montagne de l'onction. Et là, dans la tradition d'Israël, nous avons toutes sortes de ce qu'on appelle des midrashim, des petites histoires, qui ont pour but de nous montrer l'importance du mont. Pourquoi montagne de l'onction? Il y a une légende qui dit que lorsque le déluge est venu, la seule montagne qui n'a pas été submergée par l'eau du déluge était justement le mont des Oliviers. Et lorsque Noé a lâché la colombe, et la colombe est allée, vous vous souvenez, chercher un rameau d'olivier et la ramener. Et la tradition nous dit que c'est du mont des Oliviers que la colombe a cueilli ce rameau pour le ramener à Noé, en sorte que la colombe a amené la lumière au monde. L'olivier, c'est un arbre très important dans la Bible. C'est à partir de l'olive que l'on tirait l'huile. L'huile qui servait à de multiples usages. D'abord, qui servait à s'éclairer. Et l'olivier, à cause de cela, est appelé l'arbre de lumière, parce que c'est de lui, justement, qu'on tirait la lumière, on mettait cette huile d'olive dans les lampes, et c'est grâce à cette huile que l'on s'éclairait. L'huile était aussi utilisée en médecine. On utilisait l'huile pour adoucir les plaies. Vous vous souvenez que le bon samaritain, quand il avait eu pitié de cet homme qui était tombé au milieu des brigands, avait versé sur ses plaies de l'huile et du vin. Mais la première huile, la plus précieuse, celle qui sort de la première pression de l'olivier, puisqu'il y a plusieurs pressions auxquelles on se livre, elle est réservée pour un usage saint. Elle est en particulier réservée pour l'onction des rois, des prêtres et des prophètes. Et parce que justement, comme son nom l'indique, le mont des oliviers était un mont sur lequel on cultivait l'olivier, il y avait cette tradition que quand le Messie viendra, on prendra de l'huile qui aura été produite par les oliviers de ce mont des oliviers pour oindre le Messie. Et c'est la raison pour laquelle le mont des oliviers est appelé aussi le mont de l'onction. Et alors à partir de cela, il y a l'idée que le mont des oliviers va jouer un rôle essentiel dans les choses dernières, ça veut dire justement dans l'intronisation du roi Messie. Et dans la Bible, nous disions tout à l'heure, le mont des oliviers a un aspect paradoxal. Il a un aspect négatif et il a un aspect positif. Et la montagne des oliviers est associée aux choses dernières, en ce que justement elle est associée à l'exil et au retour. L'exil et le retour qui sont des thèmes essentiels justement de l'Écriture. Nous avons là un cycle prophétique majeur que nous rencontrons dans l'Écriture, le cycle de l'exil et du retour. La première fois que ce cycle apparaît en relation avec le mont des Oliviers, c'est dans la première lecture que nous avons faite. Lorsque David fuit devant son fils Avshalom qui s'est révolté contre lui. Et nous assistons ici à un exil de David. David va fuir loin de Jérusalem, la ville de Dieu, symbole prophétique de ce qui arrivera à son peuple par la suite. De la même manière que, à cause de ses péchés, de sa faiblesse vis-à-vis de ses fils, David va être obligé de s'exiler. De la même manière, le peuple d'Israël, à cause de ses péchés, devra aussi s'exiler et quitter Jérusalem, la ville sainte. Et nous voyons justement cette scène dramatique que nous avons lue tout à l'heure, où David, déjà âgé à cette époque-là, gravit la montée du mont des Oliviers. Pour un homme âgé, c'est quelque chose de difficile. 5 fois dans notre texte, il est question que David montait. Ce qui signifie le caractère de pénibilité qu'était pour lui cette ascension du mont des Oliviers. Et dans le texte hébreu, il y a un jeu de mots sur le mot « roche » qui signifie à la fois la tête et le sommet. David montait sur ce mont des Oliviers, la tête couverte. La tête couverte en signe de deuil. Et tous ceux qui l'accompagnaient avaient aussi la tête couverte pour accompagner le deuil du roi. Et il en est ainsi jusqu'à ce que David, nous est-il dit, atteigne la tête du mont, le sommet du mont. Et avant de continuer son voyage, avant de partir pour cet exil, David, quand il est arrivé sur la tête du mont, se prosterne devant l'Éternel. Il y a un culte qui est rendu à Dieu. Et alors qu'il est en train ainsi de prier, certainement pour le retour, en disant « Seigneur, délivre-moi », et nous le voyons justement qu'adresse une prière aussi pour que les conseils des méchants soient anéantis, soudain apparaît un homme dont va venir le salut pour David. Cet homme s'appelle Hushaï. Et lui aussi, il a la tête couverte. Il vient apporter à David le salut sur le sommet du mont en réponse à sa prière. Les sages ont dit, ce qui est arrivé au père est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants. Ce qui est arrivé à David est une image, est une prophétie de ce qui arrivera au dernier temps et qui montre justement que sur ce sommet, sur cette tête du mont des Oliviers, quelque chose d'important va avoir lieu au temps de la fin. Après cette rencontre avec Hushaï, David poursuit son voyage, il part en exil au travers du désert. Le désert qui commence dès que l'on franchit le mont des Oliviers. Le désert est aux portes de Jérusalem. Et le temps passe, et Dieu va accomplir, va exaucer la promesse, la prière de David. Dieu ramène David à Jérusalem. Et David va faire le chemin inverse de celui qu'il avait fait au moment de son exil. Lors du retour, il va revenir par le mont des Oliviers et reprendre possession de Jérusalem. C'est la première mention dans la Bible du cycle de l'exil et du retour dont le mont des Oliviers est le pivot. La deuxième fois qu'apparaît ce cycle, c'est à l'époque du prophète Ézéchiel. C'est-à-dire à l'époque de l'exil, dont l'exil de David avait été déjà la préfiguration et l'annonce prophétique. Les prophètes qui ont prophétisé après Salomon ont annoncé justement qu'à cause de l'idolâtrie du peuple, à cause des péchés du peuple, à cause des violations nombreuses de la Torah du Seigneur qui avait été le fait du peuple, le peuple d'Israël allait partir en exil. En 596 avant Jésus-Christ, le roi Nebuchadnezzar, roi des Babyloniens, met une première fois le siège contre Jérusalem et il exile une partie des habitants de la ville. Parmi eux, un fils de prêtre, Ézéchiel. Ézéchiel va se retrouver donc captif sur les bords des fleuves de Babylone, comme le dit le psaume 137. Et là, pendant qu'il est captif auprès de ces fleuves, il a une vision. Il est transporté en esprit à Jérusalem, dans le temple. Et là, il voit quelque chose d'extraordinaire, la gloire de l'Éternel. On appelle ça en hébreu la kavod. Kavod, ça vient d'un mot qui signifie en hébreu quelque chose qui est lourd. Kaved, c'est ce qui a du poids. Ça veut dire ce qui a de la valeur. C'est-à-dire la manifestation de la gloire de Dieu, c'est tout ce qui a de la valeur dans la manifestation de Dieu. Ce qui donnait à Jérusalem sa valeur, ce qui donnait au peuple d'Israël sa valeur, la présence de Dieu. Plus tard, les sages ont employé un autre mot qui n'apparaît pas dans la Bible, mais qui est connu de tous, c'est la shrina, la présence de Dieu. C'est synonyme de la kavod. Si Jérusalem avait quelque importance, quelque valeur, c'est à cause de la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu y résidait. Mais voilà, Jérusalem, la ville sainte, le temple sacré avait été profané par le péché. Et le prophète assiste à une scène étonnante. La kavod, la shrina, la gloire de Dieu, se prépare à un voyage. Il la voit monter sur un char, tiré par des animaux extraordinaires, des chérubins. Et il voit cette gloire de Dieu qui quitte le temple par la porte de l'Est, par la porte de l'Orient. Il voit ce char de l'Éternel qui traverse la vallée du Cédron et qui escalade le mont des Oliviers exactement comme avait fait David quand il avait fui devant son fils Absalom. Et dans cette scène extraordinaire qui nous est dépeinte dans les premiers chapitres du livre du prophète Ézéchiel, vous le relirez parce que je n'ai pas le temps de le faire ce matin, vient un moment où cette gloire de l'Éternel, ce char de l'Éternel atteint le sommet du mont, la tête du mont, et là elle s'arrête un instant. Comme si le Seigneur jetait un dernier regard sur Jérusalem, la ville sainte. Les sages d'Israël ont commenté ce texte, cet arrêt du char de l'Éternel sur le sommet du mont des Oliviers. Ils ont dit, ce départ de la Kavod, c'est aussi l'annonce prophétique que bientôt le peuple d'Israël va suivre le chemin de l'exil, comme l'avait fait leur ancêtre David. Mais ce n'est pas simplement le peuple qui part en exil. La gloire de Dieu accompagne le peuple d'Israël dans son exil. C'est aussi la gloire de l'Éternel qui part en exil. Et les sages ont continué à commenter ce texte, ils ont dit, la gloire de l'Éternel, elle est restée 6 mois sur le sommet du mont des Oliviers. 6 mois qui ont été 6 mois de grâce. 6 mois qui étaient un dernier appel à la repentance pour que la catastrophe ne s'abatte pas sur le peuple, pour que le jugement, la destruction, la montagne de la destruction, voyez-vous, les deux pôles positifs et négatifs, la destruction n'atteigne pas Jérusalem. 6 mois de grâce. Et lorsqu'il a été évident que le peuple d'Israël ne voulait pas se repentir, la gloire est partie définitivement. Et quelques chapitres plus loin, nous retrouvons ce char de l'Éternel, cette gloire qui se trouve avec les exilés sur les bords des fleuves de Babylone. Et à la fin du livre du prophète Ézéchiel, ce dernier voit à nouveau le char de l'Éternel, alors qu'il a été transporté en esprit sur une haute montagne et qu'il a vu la nouvelle Jérusalem qui nous est décrite dans les derniers chapitres de son livre, c'est-à-dire à partir du chapitre 40. Et l'ange lui montre ce que sera la nouvelle Jérusalem, le nouveau temple, le peuple d'Israël rassemblé de toutes les extrémités de la terre, de tous ses exils. Et comme dernier acte de ce rétablissement d'Israël, le prophète voit à nouveau le char de l'Éternel qui monte par le chemin de l'Orient. Ça veut dire par le chemin du désert de Juda. Et cette gloire de l'Éternel comme le soleil levant, dont parle aussi le dernier des prophètes Malachi, « Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. » Et cette gloire de l'Éternel, elle resplendit comme le soleil, nous dit le prophète. Et lorsque cette gloire franchit le sommet du mont des Oliviers, elle ne s'arrête plus cette fois-ci. Elle descend directement pour prendre possession du nouveau temple. Et la ville de Jérusalem porte alors un nom nouveau, nous dit le prophète, et c'est là-dessus que s'achève son livre. Elle s'appelle Yerushama, et non plus Yerushalayim. Ça veut dire « l'Éternel est là ». La présence du Seigneur est éternelle maintenant dans Jérusalem. L'exil et le retour. Et puis, il y a cette extraordinaire prophétie que nous avons lue tout à l'heure dans le chapitre 14 du livre du prophète Zacharie. Et là, évidemment, le prophète qui prophétisait après le retour de l'exil, c'est-à-dire après ce rétablissement que Ézéchiel avait vu, avait entrevu, du moins une partie de ce rétablissement, puisque la totalité de ce rétablissement est encore à venir, mais déjà quelque chose s'était accompli. Eh bien, le prophète ici voit quelque chose de tout à fait mystérieux. La montée des nations contre Jérusalem, au temps de la fin. Et ces nations vont tenter de anéantir Jérusalem. Et c'est alors qu'il y a une intervention du Seigneur, avec tous ses saints, nous est-il dit, et ses pieds se posent sur la montagne des Oliviers qui se fend en deux. Cette prophétie a profondément marqué la pensée messianique d'Israël, et notamment à l'époque de Jésus et avant l'époque de Jésus. Et à cause de cette prophétie, mais de tout ce que nous avons dit jusqu'alors, la montagne des Oliviers est devenue la montagne des choses dernières. Et l'on a considéré que les pieds du Seigneur qui allaient se poser sur la montagne des Oliviers étaient en fait les pieds du Messie. Parce que justement Dieu n'a pas de corps, il n'a pas de pieds, mais son Messie en a. Et le Messie, tel que nous le voyons justement dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel, nous avons médité sur ce texte hier avec ceux qui étaient avec nous à Aubonne, n'est-ce pas ? Eh bien, nous voyons justement que le Fils de l'homme, le Messie, est celui qui vient sur les nuées du ciel. Voici, il vient sur les nuées. Et ses pieds se posent sur la montagne des Oliviers. Et par conséquent, la montagne des Oliviers est la montagne messianique par excellence. C'est, nous l'avons dit tout à l'heure, à partir quand le Messie viendra, quand ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, on prendra de l'huile et on l'acclamera comme le Messie. Et on dira, comme c'est écrit dans le psaume 118, « Baruch haba b'shem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et bien sûr, il y a un autre élément aussi qui interviendra. Quand le Messie viendra, il y aura un autre événement essentiel en ce qui concerne les choses dernières. Le peuple d'Israël sera rassemblé des quatre extrémités de la terre, mais aussi les morts ressusciteront. Si vous allez à Jérusalem et que vous visitez le mont des Oliviers, vous allez être frappé par une chose. C'est que vous avez l'impression que c'est un immense cimetière. Il y a des tombes partout. Et cela depuis les temps les plus reculés, le mont des Oliviers était un cimetière. Jusqu'à aujourd'hui, il est un cimetière. Pendant toute l'histoire de l'exil, les Juifs âgés venaient à Jérusalem finir leurs jours dans le seul but d'être enterrés sur le mont des Oliviers. Et aujourd'hui, les Juifs riches de New York, de Sydney, de Miami et autres lieux, après leur mort, se font transporter à Jérusalem à grands frais, à seule fin d'être enterrés sur le mont des Oliviers. Pourquoi ? Parce que le mont des Oliviers est la montagne de la résurrection. Parce que justement, à cause de cette prophétie, quand le Messie viendra, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers et les morts ressusciteront. Et on veut être aux premières loges pour assister à l'événement. Ça nous fait sourire, bien sûr, c'est normal. Mais voilà ce qu'on pensait. Et si vous voyez des cimetières sur le mont des Oliviers, c'est pas tant parce que le mont des Oliviers est un cimetière, mais parce qu'il est la montagne de la résurrection. Et alors, bien sûr, nous comprenons tout de suite comment toutes ces prophéties sont accomplies en Jésus. Et nous voyons le rôle important que joue le mont des Oliviers dans la vie de Jésus. L'évangéliste Luc, en particulier, a divisé son évangile grosso modo en deux. Et près de la deuxième moitié de l'évangile de Luc est consacré à une montée de Jésus à Jérusalem. La moitié de l'évangile de Luc concerne le dernier voyage que Jésus a fait à Jérusalem. Et Luc nous présente le ministère de Jésus comme une montée vers Jérusalem et au-delà de Jérusalem, vers la Jérusalem céleste, c'est-à-dire vers le Père. Et lorsque Jésus a fait tout ce grand voyage depuis la Galilée en passant le long du Jourdain, comme on faisait à l'époque, il est arrivé à hauteur de Jéricho, il a traversé Jéricho, où il a rencontré Zachée, vous connaissez l'épisode, et le voilà qui monte depuis Jéricho jusqu'à Jérusalem par la montée du mont des Oliviers. Et quand il arrive au sommet du mont des Oliviers, comme lorsque David, son père, était arrivé au sommet du mont des Oliviers, il va envoyer deux disciples pour chercher un âne, afin que s'accomplisse une prophétie messianique qu'on trouve dans le livre du prophète Zacharie. Voici, ton roi vient à toi, fille de Sion, il est humble, il est monté sur un âne, sur le petit d'une ânesse. Et monté sur cet âne, qui était certainement blanc, selon la tradition, l'âne du Messie sera blanc. Bien que ça ne soit pas dit dans l'évangile, c'est vraisemblable. Eh bien, tout le peuple comprend que Jésus vient de faire un geste prophétique en montant sur cet âne. Ça veut dire, il s'est proclamé le Messie qu'a annoncé Zacharie. Et en réponse à ce geste prophétique, toute la foule cueille des palmes. Et la palme, le loulav, on appelle en hébreu, c'est un symbole messianique. Quand le Messie viendra, on accueillera le Messie avec des palmes. Et c'est ce que la tradition chrétienne appelle le jour des rameaux. Jésus entre à Jérusalem avec cette parole. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et on retrouve dans l'évangile de Luc le cri qui est poussé. Partir du temple, partir en exil, et qu'il avait vu revenir au temps de la fin. Et quand, avec les anges, la foule proclame « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts », elle fait allusion à ce retour de la cavode qui a été prophétisée par Ézéchiel. « Ton roi vient ». Ça veut dire « La gloire de Dieu revient dans le temple ». Et Jésus descend le mont des Oliviers, il traverse la vallée du Cédron, et par la porte orientale, il pénètre dans Jérusalem et dans le temple, et là il va accomplir une autre prophétie messianique qui est annoncée aussi dans le livre du prophète Zacharie. Il chasse les vendeurs du temple pour purifier le temple. Selon qu'il est écrit, « Il n'y aura plus de marchands dans mon temple, dit le Seigneur. » C'est le dernier verset du livre du prophète Zacharie. Et il cite un autre verset, cette fois-ci d'Ésaïe, « Car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. » Parce qu'il faut savoir que quand le Messie viendra, selon ce même prophète Zacharie, toutes les nations monteront à Jérusalem pour se prosterner devant l'Éternel. Et Jésus ici a accompli ce qui avait été écrit de lui. Il se manifeste comme le Messie. Mais hélas, le Messie est rejeté par les prêtres, les mauvais vignerons de la parabole que Jésus a donnée justement dans cet endroit pour annoncer le sort qu'il attendait. Et Jésus sort du temple, chassé du temple, et il monte sur le mont des Oliviers. Et là, les disciples lui posent une question, lui disent, alors que les disciples disent, « Regarde, Rabbi, ce temple magnifique !» Et Jésus dit, je vous dis, de tout ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et sur le mont des Oliviers, sur le mont des choses dernières, Jésus donne les signes de son retour. Quelles seront les choses dernières? Comment ça va se réaliser? C'est sur le mont des Oliviers que Jésus annonce ces choses. Parce que le mont des Oliviers est la montagne des choses dernières. Il y a un autre épisode qui nous est rapporté par Jean. Et qui va être déterminant. Il y avait un endroit où Jésus résidait quand il était à Jérusalem, qui était situé sur le mont des Oliviers. C'était le petit village de Béthanie, où habitait cette famille que Jésus aimait, Marthe, Marie et son frère Lazare. Et vous connaissez tous ce qui est arrivé à ce Lazare. Comment, étant tombé malade, Lazare est mort et Jésus l'a ressuscité. Et nous avons cette scène extraordinaire où Jésus arrive plusieurs jours après la mort de Lazare. Il est accueilli par les sœurs qui lui font des reproches. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus dit une parole qui prend un relief saisissant quand on sait qu'il l'a prononcée à cet endroit. Je suis la résurrection et la vie. Où a-t-il prononcé cette parole ? Sur la montagne de la résurrection, justement, sur le sommet du mont des Oliviers où était située Béthanie. Et nous retrouvons Jésus au mont des Oliviers, cette fois-ci dans le jardin de Gethsémané. Là, j'ai pas le temps de m'étendre, ça serait trop long. Mais voyez-vous, là, il y a une scène extrêmement importante qui a lieu. Jean nous dit que Jésus entre dans un jardin. Un jardin qu'il ne nomme pas. Il est le seul des quatre évangélistes à ne pas situer exactement ce jardin. Les autres évangélistes nous apprennent qu'il s'appelait Gethsemanim, le pressoir des olives. C'est sûrement pas grave. Donc, le pressoir des olives. Et là, eh bien, Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, va être pressé, voyez-vous, comme les olives au pressoir. Et les sages ont dit, l'olive, quand elle est pressée, elle pleure, et l'huile, ce sont les larmes de l'olivier. Et à Gethsémané, Jésus pleure. Là, il se trouve dans la situation où Adam s'est trouvé, le premier Adam s'est trouvé dans le jardin d'Éden, le même jardin, un jardin, vous voyez, et une correspondance. Le dernier jardin nous renvoie au premier jardin, le jardin d'Éden, dans lequel le serpent ancien, Satan, était entré. Et dans le dernier jardin, le jardin de Gethsémané, Satan aussi entre parce que c'est son heure et c'est la puissance des ténèbres, c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Et là, nous retrouvons Jésus, le second Adam, qui se trouve dans la situation où s'est trouvé le premier Adam dans le jardin d'Éden, qui a subi trois tentations. Et dans le jardin de Gethsémané, Jésus va subir trois tentations. Et là où le premier Adam a lamentablement échoué, le deuxième Adam va triompher. Jésus se relève triomphant. Il va justement écraser la tête du serpent ancien, comme l'avait annoncé la prophétie qui avait été aussi prononcée par le Seigneur avant l'exil de l'homme du jardin d'Éden. Bon, je passe là-dessus parce que mon temps passe aussi. Et je viens maintenant à un dernier point. Celui que nous avons lu dans la dernière lecture que nous avons faite, cet épisode qui va être célébré par la chrétienté dans quelques jours et que l'on appelle l'Ascension. Selon l'évangéliste Luc, cet événement a eu lieu au sommet du mont des Oliviers. Et au sommet du mont des Oliviers, Jésus donne ses dernières instructions à ses disciples. On montre encore, soi-disant, la pierre sur laquelle Jésus avait son pied quand il a été enlevé au ciel. Bien sûr, je n'en crois pas un mot. Mais en tout cas, c'est l'endroit, quelque part par là, que ça s'est produit. Et quand Jésus a achevé de donner ses instructions à ses disciples en disant « Allez dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création », il y a encore là-bas un cloître dans lequel il y a le Notre Père dans toutes les langues de toutes les nations. En souvenir justement de cet ordre que Jésus a donné depuis le sommet du mont des Oliviers à ses disciples de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Et là, pendant qu'ils étaient à s'entretenir avec lui, soudain Jésus est enlevé au ciel. Et une nuée le couvre. C'est pas un simple nuage. La nuée, c'est quoi? C'est la manifestation de la gloire de Dieu. C'est la kavod. Et le Messie, nous l'avons vu tout à l'heure, le Fils de l'homme de Daniel, est celui qui vient sur les nuées du ciel. Une nuée le couvre. Ça veut dire, il entre dans la gloire de Dieu. Il retrouve la gloire dont il s'était dépouillé quand il est descendu sur la terre. Et l'évangéliste Marc, rapportant cet événement, dit ceci, « Il s'assit à la droite de Dieu. » Selon ce qu'écrit dans le psaume 110, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » La droite de Dieu, c'est l'endroit de la puissance. À partir de là, Jésus peut dire... Et il avait dit à ses disciples, justement, avant d'être relevé, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il s'assit à la droite de Dieu, où il exerce toute puissance et toute autorité, à cause de la mort qu'il a soufferte. » Et les disciples sont là, à regarder le ciel, qui maintenant est vide, jusqu'à ce que des anges viennent leur dire, « Galiléens, pourquoi regardez-vous le ciel ?» Ce Jésus que vous avez vu partir de ce lieu reviendra dans ce lieu, au même endroit, de la même manière, selon la prophétie de Zacharie 14, que celle qui vient de se produire en sens inverse. Et voyez-vous, là, il y a un autre phénomène, un autre cycle prophétique que nous avons déjà rencontré. Nous avons vu l'exil et le retour de David. Nous avons vu l'exil et le retour du peuple d'Israël. Et nous avons vu l'exil et le retour de la kavod, de la gloire de Dieu. Et maintenant nous voyons le départ et le retour du Messie, le même cycle prophétique. Le ciel est vide, Jésus n'est plus là. De la même manière que le prophète voyait la gloire de Dieu, qui depuis le mont des Oliviers quittait le temple, quittait Jérusalem et s'enfonçait dans le désert, dans l'exil. Mais pour accompagner le peuple pendant son exil, de la même manière les apôtres voient Jésus glorifié, qui disparaît à la droite de Dieu, mais qui a dit, de la même manière que la gloire de Dieu a accompagné le peuple d'Israël dans son exil, de la même manière, je suis avec vous tous les jours, par mon esprit, jusqu'à la fin du monde. Et va commencer l'exil du peuple de Dieu, l'exil d'Israël, le deuxième exil, et l'exil de l'Église qui va vers toutes les nations. Et en tant qu'Église, nous sommes aussi un peuple en exil, comme le peuple d'Israël. Et le Seigneur est absent, et en même temps il est présent par son esprit, comme la kavod avait été présente avec le peuple d'Israël dans son exil. Mais il y aura un autre temps où le mouvement s'inversera. Et c'est maintenant. Le peuple d'Israël sera rassemblé de toutes les nations dans Jérusalem. Jésus l'avait annoncé dans le discours sur le mont des Oliviers. N'est-ce pas ? Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et à ce moment-là, le mouvement s'inversera. De la même manière que le premier exil avait pris fin, eh bien, le deuxième exil prendra fin. Et vous avez remarqué, c'est à la fin de cet exil, quand le peuple d'Israël avait été rassemblé selon la vision d'Ézéchiel, que la kavod, la gloire de Dieu est revenue. Et c'est maintenant justement que le peuple d'Israël revient de son exil, que bientôt les pieds du Seigneur se poseront sur le mont des Oliviers, car il est la manifestation ultime de cette gloire de Dieu, de cette kavod que le prophète avait vue. Et il viendra dans les mêmes circonstances, au même endroit, sur le mont des Oliviers. Et voyez-vous, ce cycle, il ne concerne pas seulement le peuple d'Israël qui revient de cet exil, mais il concerne aussi l'Église. L'Église, elle aussi, sera rassemblée de ses exils. Matthieu nous dit ceci, « Il enverra ses anges qui sonneront du shofar, et ils rassembleront les élus des quatre extrémités de la terre » dans son royaume. Alors voyez-vous, il y a deux rassemblements. Le rassemblement d'Israël dans la Jérusalem terrestre, et au dernier moment, en un instant, en un clin d'œil, quand le Seigneur donnera le signal au dernier jour, au son du shofar, alors les morts ressusciteront. Pas seulement de ceux qui sont enterrés au mont des Oliviers, mais tous ceux qui auront cru dans le Seigneur. Et les élus vivants à cette époque-là seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, dans la Jérusalem céleste, pour revenir avec lui sur le mont des Oliviers. Et là, justement, les deux Jérusalem, comme on dit, les sages n'en feront plus qu'une, seront réunifiés. Et auparavant, il y aura ce grand jugement des nations, cette grande crise. Et je termine là-dessus. La crise. La Bible nous parle d'une grande crise finale. Crisis en grec, ça veut dire aussi le jugement, le discernement, la décision. Et notre monde entre dans cette crise. Nous vivons dans un monde en crise. Nous vivons dans un Israël en crise et nous vivons dans une Église en crise. C'est la crise finale. La crise qui est en même temps une séparation. Crisis en grec, c'est séparer les choses. Séparer le bon grain de l'ivraie. Et le Seigneur permet cette crise pour que justement soit révélé ce que chacun est réellement, qui est qui. Et dans les crises dans lesquelles nous sommes, la crise est le révélateur. C'est pas quand tout va bien que l'on sait ce que l'on est, c'est quand ça va mal. C'est là que tu es authentique, c'est là que ce que tu es vraiment apparaît dans la crise. Et le Seigneur permet les crises dans nos vies, il permet les crises dans le monde pour que soit révélé ce que nous sommes réellement, qu'il sache ce que nous sommes et que nous sachions ce que nous sommes. Et la crise nous permet de nous déterminer, de choisir. Dans la crise, tu fais un choix. Et c'est cela aussi que nous rappelle le Mont des Oliviers. Le Mont des Oliviers, c'est le Mont de la crise. Positif et négatif. La destruction et la rédemption. Le jugement et le salut. Et cela dépend justement de l'attitude que nous adoptons vis-à-vis justement de ces crises finales. Et là, justement, le Seigneur nous demande, et c'est ce que nous avons fait quand nous avons pris la Sainte Cène, que chacun donc s'examine lui-même. C'est le même mot en grec. Diakréseis. Il y a le mot chrysis dedans. Discerner. S'examine. Voir où il en est. Pour se préparer aux choses finales, aux choses dernières. David montait en pleurant le mont des Oliviers. C'est une prophétie. Nous sommes en train d'escalader en pleurant le mont des Oliviers. 5 fois il est dit qu'il montait. C'est difficile, c'est pénible. Mais quand il arrive au sommet du mont, il se prosterne parce qu'il voit venir le salut. Alors, comme disaient les prophètes, les nations diront « Montons à la montagne de l'Éternel. Maison de Jacob, venez. » Et montons à la montagne de l'Éternel. Montons à la montagne de l'Éternel, c'est ce que le Seigneur nous demande dans ce temps. Comme Jésus était monté, et ensuite il était remonté vers le Père. Nous montons aussi vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu, parce que dans cette Jérusalem céleste, où il est remonté, il est parti nous préparer une place. Il reviendra au dernier jour, comme la gloire de l'Éternel était revenue dans le temple, pour que là où il est, nous y soyons aussi.